Jacques-Yves Molima.
Le délai de 60 jours accordé au sénateur Jean-Pierre Bemba pour son séjour médical au Portugal a expiré le 10 juin. Le bureau politique du MLC plaide pour une recherche de voies politiques et pratiques sur le retour à Kinshasa de son leader. 23 cas de méningite, dont 8 décès dans la localité de Kalamba, district de Lualaba au Katanga depuis le début de cette année. La population lance un SOS, mais les autorités provinciales qui se disent disposées à intervenir n'ont cependant pas de moyens de transport. Les femmes veuves de militaires dans la province orientale réclament leur rente. Elles se disent abandonnées à leur triste sort. Mais pour le bureau local de la direction des œuvres sociales et médicales de FARDC, cette situation est liée au non-recensement de ces veuves. Mesdames et messieurs, bonjour. Le bureau politique du mouvement de libération du Congo lance un appel au chef de l'État et à tous ceux qui croient aux vertus de la démocratie au Congo et à l'étranger. Appel pour s'impliquer dans la recherche de voies politiques et pratiques pour le retour de son président. Dans un communiqué diffusé hier dimanche, le bureau politique du MLC insiste sur la nécessité de trouver une solution politique aux problèmes liés au retour de Jean-Pierre Bemba à Kinshasa. Yves Kisombe, député national et cadre du mouvement de libération du Congo, joint au téléphone par Berry Franklin Luchaka.
Un certain nombre de conditions par rapport à la confiance sur la scène politique, par rapport à la sécurité, à la confiance mutuelle qui doit régner entre le pouvoir et l'opposition. Dès que ce minimum sera réuni avec l'esprit républicain, la contribution du gouvernement avec l'opposition, eh bien Jean-Pierre Bemba rentrera au pays. Je sais qu'il n'attend que ça. Donc il n'y a aucun problème de principe là-dessus. C'est simplement sur le plan pratique, sur le plan des modalités, que les choses doivent se peaufiner, se préciser. Et Jean-Pierre Bemba se fera dans son avion pour rentrer au pays sans aucune hésitation. Il faut que les choses soient fixées au niveau du Sénat. Jean-Pierre Bemba est sénateur et que dès que tout est en pratique finalisé, Jean-Pierre Bemba rentrera. Il ne peut pas rentrer comme n'importe quel citoyen. Il s'agit quand même du leader de l'opposition.
Pour la petite histoire, le sénateur Jean-Pierre Bemba est président du MLC, a obtenu l'autorisation du Sénat de quitter le territoire pour raison médicale, et cela pour une durée de 60 jours, soit du 11 avril au 10 juin 2007. Au Kasaï oriental, le ministre provincial du Transport, Communication, Information et Presse a rendu le week-end dernier sa démission. Théophile Tchéyi se retire du gouvernement provincial d'Ngoï Kassangi avant même son investiture. Le président de l'ULDC, Ville de Monéditou, et secrétaire particulier du ministre démissionnaire justifie ce geste en raison d'un contentieux tribalo-politique. Selon lui, les députés provinciaux de la circonscription de Monéditou ne reconnaissent pas la nomination de Théophile Tchéyi comme ministre les représentant. Nicky Poutou pour le détail.
À l'origine de cette démission, le non-respect par Ngoï Kassangi, gouverneur de province, d'un accord conclu avec les députés de la tribu Kanyok de Monéditou lors de la campagne pour son élection. Sur la base de cet accord, les députés Kanyok s'étaient engagés à donner leur voix pour l'élection de l'actuel gouverneur de la province, moyennant en contrepartie un poste ministériel. Ils estiment que les clauses de cet accord n'ont pas été respectées. En conséquence, les députés de Monéditou ont fait une pression sur le gouverneur de province pour démettre le ministre de la Communication. Ils estiment qu'il ne fait pas partie de la tribu Kanyok. De son côté, le ministre provincial Transport, Communication, Information et Presse avance les raisons personnelles de sa démission, même si le président de l'ULDC, Monéditou, déclare qu'en réalité, il a été contraint d'abandonner son poste. En outre, Jean Bosco dénonce la ségrégation politique dont est victime les ministres démissionnaires. Il précise que des démarches sont en cours pour rencontrer dès la semaine prochaine l'autorité provinciale. En réaction, le gouverneur de province déclare prendre acte de cette décision. Il a tenu à préciser qu'en sa qualité de premier responsable de l'exécutif, il n'était en aucune manière recevoir un dictat de qui que ce soit pour la nomination d'un ministre. Mujimai Nikimputu, Radio Okapi.
De l'autre côté, à Kananga, le président urbain du RCD Goma dénonce les irrégularités dans la tenue de la plénière qui a évincé le gouverneur de province Trésor Kapoku. Dans un point de presse tenu le week-end dernier à Kananga, le président urbain de ce parti, lui-même député, appelle le bureau de l'Assemblée provinciale à annuler l'adoption de la motion de défiance et à revenir sur la motion d'incidence déposée par l'Alliance pour la majorité présidentielle au cours de la plénière. Les propos de Daniel Mbayi sont recueillis par André Kambala.
la mauvaise interprétation de l'article 146. Le gouverneur ne s'est pas encore engagé devant l'Assemblée provinciale pour donner sa responsabilité envers nous. Nous le condamnons par rapport aux actes pendant que nous n'avons pas encore reçu dans notre Assemblée. Nous les gens par les actes déjà. Et aussi, les irrégularités qui se sont glissées au niveau de la motion de défiance au moment de son adoption, l'article 84 du règlement intérieur condamne ça. C'est-à-dire, les membres du bureau ont participé au vote de cette motion. Ce qui rend irrégulier parce que le bureau doit être neutre pour nous départager en cas d'égalité. Le gouverneur a été invité, mais on ne lui a pas donné le temps de s'exprimer. Cependant que l'ordre du jour qui était sorti ne prévoyait même pas l'intervention du gouverneur, moi où il donnait déjà notre invitation. Ce sont des sentiments, il faudra qu'on se retrouve. Car l'AMP avait donné la motion incidentielle lors de la plénière, qui n'a pas été soumise au vote. Il y a blocage si on peut revenir pour départager les gens et éviter les sentiments.
Les activités des assemblées provinciales, toujours direction Sud-Kivu. Là, l'assemblée provinciale reprend ses travaux ce lundi 11 juin 2007. C'est ce qu'ont décidé finalement les présidents des différentes commissions, ainsi que les présidents des groupes parlementaires autour du vice-président de l'assemblée provinciale lors de leur conférence vendredi. Pour les députés de l'assemblée provinciale, la session a débuté tard par rapport à d'autres provinces. Plusieurs dossiers traînent encore sur la table, notamment le programme d'action du gouvernement provincial. Isaac Boucher-Kabiri, rapporteur de l'Assemblée provinciale, s'explique au micro de Charlotte Ngundi-Selemani.
Il y a une bonne volonté de la part de tous les députés provinciaux de bien finir tous les travaux, tous les quelques jours calendriers de la session ordinaire, le 15 mars et le 15 juin. Et nous pensons que dans un premier temps, la priorité, c'est d'abord le programme d'action du gouvernement provincial, le reste du gouvernement provincial, et après l'examen du budget de toute la province. On va s'y atteler. Pour nous, en ce qui concerne l'Assemblée provinciale, nous sommes prêts avec ce que nous avons comme examen du budget. Le gouverneur a soumis toute une série de matières à soumettre comme plan l'Assemblée provinciale. La question de la construction de la réponse du Kivu est bien connue de tous. Nous savons ce que nous allons faire pendant 5 ans ou pendant une année.
Rappelons que c'est depuis mercredi de la semaine dernière que les députés provinciaux ont suspendu les travaux à l'Assemblée suite à une motion incidentielle de l'honorable Buhamba Hamba ce même mercredi sur les non-installations des députés provinciaux. Cri de détresse de la population du territoire de Kapanga, district du Lualaba au Katanga. Depuis le mois de janvier, la méningite sévit la localité de Kalamba, à la frontière avec la province du Kassai oriental. D'après le médecin inspecteur du district, on dénombre à ce jour 23 cas, dont 8 décès. Les autorités provinciales se disent disposées à intervenir, mais les moyens de transport pour effectuer les déplacements manquent. Donat Mboj.
L'alerte a été lancée mercredi dernier par les commissaires du district du Lualaba, Patrick Kajik, lorsque le centre de santé de Kalamba a enregistré le dernier décès en date. Confirmant l'information, le médecin du district ajoute que le nombre de victimes pourrait être plus élevé parce que d'autres villageois ne se présentent pas au centre de santé, étant donné que ce dernier n'est pas doté de médicaments pour soigner cette maladie. C'est pourquoi il avait alerté sa hiérarchie à Lubumbashi, mais aucune réaction jusqu'à présent. Contacté par Radio Okapi à ce sujet, le médecin secrétaire provincial de la santé s'est refusé de toute déclaration. La population, elle, exprime son indignation et se dit abandonnée à son triste sort. Déclaration du président de la société civile du territoire de Kapanga en réaction à la récente déclaration du ministre provincial de la Santé. Augustin Joloko a déclaré mercredi dernier qu'il ne dispose pas de moyens pour acheminer les médicaments à Kalamba, bourgade située à plus de 1000 km de Lubumbashi. Lubumbashi, Donat Mboj, Radio Okapi.
Un cas de poliovirus sauvage détecté sur une fille de 8 ans à Lukolila dans la province de l'Équateur. Une situation qui a mis en alerte les autorités sanitaires du Congo Brazzaville en face. Une équipe de vaccination d'urgence a été déployée dans les localités brazzavilloises en face de Lukolila. Pendant ce temps, une mission mixte UNICEF Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville évaluera la situation cette semaine. L'objectif étant d'organiser dans un temps record une campagne de vaccination synchronisée contre la polio dans la région. Arsène Severin.
Elle indique que l'équipe de santé quitte Brazzaville pour Lukolila, mais elle n'arrivera sur le terrain que mardi. Pour éviter le retard, le secteur de santé de Wando a été déployé dans la zone. Le docteur Edouard Ndinga, chef de programme élargi de vaccination, a indiqué à Radio Okapi que l'équipe partie de Brazzaville évaluera la situation afin de préparer une campagne de riposte en fin juin. L'UNICEF RDC, alerté par le bureau de Brazzaville, a déjà envoyé il y a quelques jours une équipe à Lukolila une fille de 8 ans a été fourvoyée par le polluaire sauvage de type 1. Avec l'appui de l'OMS, les deux équipes d'UNICEF tenteront de planifier une campagne de vaccination synchronisée de part et d'autre du fleuve. Pour le docteur Ndinga, le gouvernement du Congo-Brazzaville a déjà mobilisé les moyens nécessaires pour empêcher que ce virus ne traverse le fleuve. Signalons que les populations riveraines du fleuve partagent dans cette zone 8 marchés dont ceux de Mambeka, Sokebelemaye et Manga en RDC. Ce sont ces échanges permanents et familiers qui sont vecteurs du redoutable virus de polio. Enfin, c'est Radio Brazzaville, Radio Capi.
Revenons à l'information diffusée samedi dernier sur nos antennes, celle concernant le site minier de Luiswichi, à près de 25 km de Lubumbashi, contenant un fort taux de radioactivité d'uranium. Ceci, selon le rapport rendu par une équipe d'experts de l'Office congolais de contrôle du Katanga la semaine dernière au gouvernement provincial. Radio Capi a donc cherché à avoir la réaction des autorités gouvernementales s'occupant de ce secteur d'activité. Tous les détails avec Blaise de Chindami.
Le taux de radioactivité au site de Luiswichi sera sous examen. Réaction hier du vice-ministre des Mines en mission en Chine depuis 5 jours. Selon Victor Kassongo-Somari, joint par Radio Capi, s'il s'avérait que le taux est très élevé, ceci pourrait conduire à la fermeture du site. Pour lui, la loi est claire à ce sujet. Pour le ministre de l'Environnement joint hier, les dispositions utiles seront prises pour sécuriser la population environnante. Ceci au cas où l'information s'est confirmée. Didas Pembe précise que les dispositions des dernières ordonnances signées par les chefs de l'État donnent des prérogatives à son ministère en ce qui concerne le respect de l'environnement dans les carrières minières. Prérogatives réservées autrefois au seul ministère des Mines qui, selon Didas Pembe, était jugé parti. Par ailleurs, le ministre de l'Environnement a promis d'instruire le coordinateur de l'environnement au Katanga de prendre toutes les dispositions et de lui tenir informé pour qu'une mission de contrôle descende sur les lieux afin de prendre des mesures adaptées.
Près d'un millier de veuves militaires ne reçoivent pas le solde de leur mari dans le district du Haut-Touélé. Selon Mme José Filimba Elengui, présidente des veuves militaires du Haut-Touélé dans la province orientale, ces femmes se trouvent abandonnées à leur triste sort dans les territoires de Faradji, Ouacha et bien d'autres. Écoutons son explication au micro de José de Chartemenga.
Les échos que nous recevons de l'intérieur sont expliqués, nos amis souffrent énormément. En fait, elles ne sont pas enregistrées et disons que nos collègues de Ouassia, Faradié, Dourba ne sont pas payés. Chaque jour, nous recevons des rapports. Nous demandons qu'on envoie les charges du bureau des œuvres sociales et médicales afin d'enregistrer nos amis. Que l'État se penche sur notre cas. Nous souffrons avec les enfants. Nous scolarisons les enfants. Nous devons les nourrir. De tout cela, nous ne recevons même plus de rations. Pourquoi cela?
De son côté, le bureau local de la direction des œuvres sociales et médicales des FRDC dans le Haut-Touélé rapporte que cette situation est liée au non-recensement des veuves. Toutefois, une équipe est à pied d'œuvre pour aller recenser ces veuves afin qu'elles soient intégrées dans la liste de paye. Lieutenant Unesha Unega, chef adjoint de la direction des œuvres sociales et médicales des FRDC dans le Haut-Touélé.
Le chef de notre service vient d'initier une mission qui va descendre sur le terrain en compagnie du service des affaires sociales du Haut-Ouélé. J'espère que nous allons réussir à recenser toutes les veuves. Selon les témoignages de l'une d'entre elles, qui est venue de Ouattia à 315 km à pied, lorsqu'elle a appris que ses amis étaient payés ici à Isiro, elle nous a dit que toutes les autres vivent dans des conditions très précaires.
Autre chose, une délégation de génie militaire de la ville de Matadi est arrivée le week-end dernier à Boma. Conduite par le colonel Jonas Kabongo, celle-ci a rencontré le maire de la ville de Boma avant le début des travaux d'assainissement de cette ville qui démarre ce lundi. Selon Victorine Masunda, la population a été sensibilisée pour venir en aide au génie militaire dans l'accomplissement de leurs tâches. Dani Kindanzita.
Débouchage de caniveaux, délocalisation de toutes les personnes qui vendent le long des artères principales du site qui a été la première capitale de la République démocratique du Congo, tâche de 40 éléments de génie militaire dès ce lundi dans la ville de Boma. Selon le colonel Joseph Kabongo, un détachement de génie militaire de Boma sera appuyé par celui de la ville de Matadi pour le débouchage de 4 principaux caniveaux qui s'amènent vers la rivière Kalamu avant de se jeter dans le fleuve. Pour la délocalisation des vendeurs le long des artères principale de la ville. La même source indique que 3 endroits ont été trouvés par la mairie pour caser tous ces vendeurs qui ont érigé un marché devant la sortie du port. Il s'agit de Ancien Fina et INP pour centre-ville pour la vente de produits de seconde main appelés communément bilocos, grand bateau pour les mamans qui vendent des légumes. A noter que le colonel Joseph Kabongo, directeur du génie militaire pour la 2e région militaire Bas-Congo, pense que les différents travaux vont s'étendre dans les autres coins de la ville de Goma. Matadi, Dani Kindanzita, Radio Okapi.
C'était 15 minutes à Kinshasa, ainsi fait cette édition du journal Parler. Merci de nous avoir suivis.